Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Ce mardi, le Parlement local de Hong Kong a voté à l'unanimité une nouvelle loi sur la sécurité nationale. Celle-ci s'inscrit dans la parfaite continuité d'une autre loi imposée par Pékin à la suite des manifestations pro-démocratie de 2019. C'est donc désormais en interne qu'on s'accorde à aller plus loin dans la répression de toute contestation. Si tout espoir démocratique ne semblait déjà plus permis à Hong Kong, que reste-t-il de son statut spécial, de son autonomie vis-à-vis de la Chine? Avec quelles conséquences économiques au vu des condamnations internationales et de la méfiance des investisseurs étrangers? Bonjour Jean-Pierre Cabestan.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous. Vous êtes sinologue, chercheur émérite au CNRS. Alors il faut tout d'abord nous dire quel est le statut particulier de Hong Kong, parce que donc les choses ont évidemment évolué. Quelles ont été les étapes? Où en sommes-nous aujourd'hui?
Oui, alors Hong Kong est revenu à la Chine en 1997. Auparavant, c'était une colonie britannique. Les Britanniques et les Chinois sont mis d'accord sur une déclaration conjointe dès 1984 qui organisait ce retour. Et d'après cette déclaration, une loi fondamentale devait être mise en place. Cette loi fondamentale a été finalisée en 1990, puis entrée en vigueur lors du retour de Hong Kong à la Chine en 1997. Et au terme de l'article 23 de cette loi fondamentale, une loi de sécurité nationale devait être, à terme, être promulguée, enfin, élaborée et promulguée. Une première tentative a eu lieu en 2003, mais elle a échoué parce que beaucoup de Hongkongais s'y sont opposés. Un demi-million de personnes se sont retrouvées dans la rue en juillet 2003, et c'est ça qui a retarder ce projet de loi de sécurité nationale, qui était déjà un projet extrêmement controversé à l'époque. Alors, comme on le sait, ce sont les événements, les mouvements de protestation de 2019 qui ont conduit Pékin d'abord à mettre en place leur propre loi de sécurité nationale pour Hong Kong dès le mois de juin 2020. Et là, je dirais que les règles du jeu ont diamétralement changé dès cette époque. Mais le projet de loi proprement hongkongaise sur la sécurité nationale, pour renforcer la sécurité nationale, restait encore en suspens et devait tôt ou tard être réalisé. Donc c'est en fonction de ces articles 23. C'est ce qui devient de cette loi, cette seconde loi de sécurité nationale pour Hong Kong qui vient d'être promulguée.
Les Britanniques n'avaient pas réclamé de garantie, ou alors de toute façon on ne peut pas réclamer ce type de garantie, une permanence donc de la démocratie dans ce territoire?
Alors parmi les garanties que les Chinois avaient acceptées, c'est le respect, le maintien de Hong Kong comme territoire adhérent à la convention, au pacte de l'ONU sur les droits civils et politiques. Et maintenant, c'est pour ça que l'ONU aussi est une des parties à l'affaire, dans le sens où si ce pacte n'est pas respecté, l'ONU peut intervenir, ou son rapporteur sur les droits de l'homme peut intervenir. Il est déjà intervenu, d'ailleurs, parce qu'il y a
manifesté. Mais avec quelle efficacité, avec quelles conséquences, Jean-Pierre Cabestan?
Avec aucune conséquence, malheureusement, parce que ici, le maître, c'est le Parti communiste chinois, hein, c'est lui qui décide. Et c'est surtout Pékin et le Parti communiste qui décident de l'interprétation de ces crimes qui sont dans toutes les lois de sécurité nationale, la sédition, la subversion, le terrorisme. Mais le problème, c'est que dans cette loi, on voit bien que la définition est extrêmement large et que depuis 4 ans, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont interdites. Notamment, on l'a bien vu, la commémoration de Tiananmen n'est plus possible. Toute critique du Parti communiste chinois n'est plus possible. Et forcément, toute critique de Xi Jinping ne peut plus être publiée à Hong Kong comme c'était le cas auparavant. Donc, il y a quand même une atteinte majeure à la liberté d'expression ici, et sans parler de l'opposition politique qui est soit en exil, soit en prison. Et pas forcément une opposition politique d'ailleurs favorable à l'indépendance de Hong Kong. Les gens qui étaient favorables à l'indépendance de Hong Kong étaient extrêmement minoritaires, ils l'ont toujours été. Donc c'est pas là vraiment le problème. Le problème, c'est ce qui faisait Hong Kong quelque chose, enfin un territoire particulier en Chine populaire, c'est de rester beaucoup plus ouvert sur l'extérieur et jouissant de beaucoup plus de liberté publique en Chine continentale.
Oui, alors ce qui signifie que aujourd'hui le Parlement local, donc qui a voté à l'unanimité, cela derrière le chef de l'exécutif John Lee, cette loi sur la sécurité nationale, bon, il y a finalement, hélas, rien de surprenant.
Non, c'est plus un parlement comme on le connaissait avant. Avant, on avait un parlement hybride qui était à moitié élu de manière démocratique par des collèges territoriaux, puis l'autre moitié par des collèges professionnels qui sont bien moins démocratiques puisqu'ils représentent un certain nombre de corps de métier, un air corporatiste. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucun pluralisme dans la réalité, dans le Parlement de Hong Kong, dans ce qu'on appelle le Conseil législatif, qui ressemble de plus en plus à l'Assemblée populaire nationale à Pékin, hein, avec ses grandes unanimités dont on a l'habitude dans les pays communistes.
Bon, alors il faut nous rappeler malgré tout comment John Lee, comment ce Parlement a été élu, quels sont les mécanismes qui prévalent en matière politique à Hong Kong.
Alors, c'est pas facile parce que c'est assez compliqué. Parlement, il y a 90 sièges. Il y a seulement 20 sièges élus par les électeurs de Hong Kong. Mais le taux de participation était de moins de 30% en 2021 lorsque cette élection a eu lieu. Le reste, les 70 autres, sont élus pour 30 d'entre eux par des collèges professionnels comme avant. Et puis les 40 autres par un grand collège électoral de 1500 membres et qui sont eux-mêmes triés sur le volet. D'assemblées triées sur le volet par Pékin, qui est constituée de personnalités pro-Pékin du territoire.
C'est ce qui veut dire que, bon, finalement, aujourd'hui, on peut considérer qu'Hong Kong est dans la même situation du point de vue donc, des privations des libertés individuelles et politiques que le reste de la Chine, Jean-Pierre Cabestan.
Alors, ça, c'est la vraie question. Pas tout à fait encore. Pas tout à fait encore. Je crois qu'ils n'en sont pas loin. Mais c'est plus une singapourisation de Hong Kong dans le sens où vraiment on a un système autoritaire. On sait qui est le patron. Il y a vraiment pratiquement plus de pluralisme. Mais il y a encore des choses qui restent impossibles en Chine populaire, notamment l'accès à Internet, qui reste libre pour l'instant. Instagram, Twitter, Facebook, ce sont autant de plateformes qui sont interdites en Chine. Il y a encore un léger pluralisme dans la presse, enfin quand même très très timide. Et je dirais une plus grande autonomie sur le plan universitaire académique qu'en Chine. Parce que moi j'enseigne à Hong Kong, donc je peux le, si vous voulez, en être le témoin de manière quotidienne.
Mais alors oui, hein, justement, est-ce que ça veut dire que dans les universités, est-ce que l'on peut enseigner les disciplines librement, Jean-Pierre Cabestan?
Oui. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde se sent libre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur et qui préfèrent arrêter d'enseigner les sujets sensibles ou s'auto-censurent, évitent les questions difficiles afin de ne pas avoir de problème.
Je ne sais pas, est-ce que par exemple on peut enseigner des théories du totalitarisme?
Bien sûr. Enfin, en tout cas, les gens que je connais. On continue d'enseigner le programme qui était leur avant 2020. Donc, la ligne de défense, si vous voulez, dans ces domaines, c'est que nous, on fait de la science politique, on ne fait pas de politique. Ce qui est certain, c'est que sur les campus, il n'y a plus aucune activité politique dite de ce nom. Les associations étudiantes qui étaient indépendantes et qui avaient des activités parfois un peu politiques ont été totalement démantelées. Donc là, il y a vraiment une réduction drastique des libertés politiques sur les campus. Mais je crois que la ligne rouge, c'est entre enseigner des questions politiques, la théorie politique, et faire de la politique de manière publique dans le territoire.
C'est-à-dire qu'en fait, la théorie, on peut l'enseigner, et c'est la pratique qui est compliquée à faire.
Et ça veut dire qu'on peut avoir des débats avec les étudiants sur un certain nombre de sujets. Moi, ce que j'observe, c'est que les étudiants en provenance de Chine continentale sont de plus en plus à l'égard de ce qui se passe dans leur pays, y compris à l'égard de Xi Jinping. Donc, là, il se passe des choses quand même en Chine. Alors après, tout le monde est un peu. Il y a beaucoup de gens qui restent silencieux, il y a beaucoup de gens prudents. Donc, l'environnement a quand même beaucoup changé. Et surtout, de manière. Plus général, ce qui manque, c'est à la fois ces publications dissidentes et informatives sur ce qui se passait en Chine, ces journaux aussi, et revues qui apportaient beaucoup, un éclairage assez indépendant sur la politique chinoise. Tout ça, ça n'existe plus maintenant.
Mais alors, Jean-Pierre Cabestan, en conclusion, les milieux d'affaires, parce que, bon, voilà. Il y a quand même un rôle important du point de vue économique d'Hong Kong par rapport à la Chine. Et alors ça ne fait pas fuir les milieux d'affaires ?
Ben justement, ils sont préoccupés parce que vous avez probablement remarqué que la nouvelle loi de sécurité nationale introduit une définition extensive du secret d'État. Secret d'État qui n'est pas seulement politique, mais aussi économique, technologique, financier. Et donc, un certain nombre d'entreprises, notamment ce qu'on appelle les entreprises d'intelligence économique, qui font la due diligence, sont de plus en plus hésitantes à rester à Hong Kong, parce que c'est l'accès aux informations qui devient compliqué et qui peut les mettre en danger. Les entreprises aussi d'audit sont préoccupées par les nouvelles règles du jeu qui pourraient être introduites, parce que si on commence à enquêter sur des entreprises d'État chinoises qui possèdent des secrets d'État, elles peuvent se trouver en situation aussi périlleuse sur le plan juridique.
Oui. Ça peut effectivement poser différents problèmes au milieu d'affaires. Merci beaucoup Jean-Pierre Cabestan d'avoir été avec nous. Vous êtes sinologue et vous étiez en duplex depuis Hong Kong, en duplex depuis Paris, les studios du président Kennedy. Alexandra Delbo dans quelques instants avec Science.